la banque d'investissement Swiss Credit, Swiss estime que le produit intérieur brut PIB du Venezuela, l'un des pays les plus sanctionnés au monde, aura une croissance de 20% en 2022. Un rebond qui serait stimulé par une augmentation de la production de pétrole. L'institution modifie sa projection sur l'économie vénézuélienne, pour laquelle elle avait prévu initialement une croissance de 4,5% pour cette année. De plus, dans les nouvelles estimations, on prévoit une expansion du PIB vénézuélien de 8% en 2023, 3% au-dessus de ce qui avait été prévu auparavant. Ce ne sont pas des erreurs de frappe. Si nous sommes précis, cela pourrait finir par être parmi les croissances les plus solides au niveau mondial pendant ces années, a écrit l'économiste de crédit suisse Alberto Rocha. L'économiste explique que ces chiffres de haute croissance ne devraient pas surprendre après que l'économie vénézuélienne ait touché le fond en 2020. Une mesure pour revenir sur la dollarisation. Point d'interrogation, qu'y a-t-il derrière le nouvel impôt sur les devises au Venezuela? Deuxième point d'interrogation. Dans son rapport, le Crédit Suisse signale aussi que la collecte d'impôts au Venezuela en termes de dollars pour cette année pourrait atteindre plus de 40%. Les importations pourraient croître de plus de 15% et le pays pourrait enregistrer un excédent d'environ 4 milliards de dollars dans les comptes courants. D'autre part, la Banque d'investissement suisse a réduit son estimation sur l'inflation générale annuelle du Venezuela qui atteindrait 70% à la fin de cette année. Auparavant, elle avait estimé que cette inflation serait de 150%. Pendant ces dernières années, le Venezuela a vécu une hyperinflation incontrôlable, renforcée en grande partie par l'imposition du blocus financier et des mesures coercitives des États-Unis contre l'industrie pétrolière vénézuélienne. Selon le Crédit Suisse, la situation actuelle entre la Russie et l'Ukraine pourrait conduire à une recomposition dans la fourniture mondiale de pétrole, ce que soutiennent les mouvements destinés à trouver une solution à la crise vénézuélienne. De même, ils disent que le contexte est prêt pour que le président vénézuélien Nicolas Maduro trouve des points communs avec les États-Unis, Inch'Allah. En Suède, les sociodémocrates au pouvoir entament un débat sur l'adhésion à l'OTAN. Les sociodémocrates au pouvoir en Suède ont annoncé l'ouverture d'un débat interne sur la situation stratégique du pays et la possibilité d'une adhésion à l'OTAN désormais envisageable après l'opération militaire russe en Ukraine. Ce 11 avril, la première ministre suédoise et dirigeante du Parti social-démocrate suédois des travailleurs SAP, Magdalena Andersson, a annoncé l'ouverture d'un débat à tous les membres du parti sur la situation stratégique du pays et le choix de ses alliances neutres. Militaire. Ce sera une discussion plus large que la question d'un oui ou d'un non à l'adhésion à l'OTAN, a affirmé dans un communiqué le numéro 2 des sociodémocrates Tobias Baudin. Ce dialogue sur la politique de sécurité devrait s'achever avant l'été. Selon lui, Magdalena Andersson avait affirmé fin mars ne pas exclure une candidature à l'alliance militaire occidentale après avoir pourtant exprimé dans un premier temps sa préférence de voir la Suède rester hors des alliances militaires. Historiquement opposé à une adhésion à l'OTAN, le Parti social-démocrate suédois a revalidé une motion en ce sens lors de son dernier congrès. Néanmoins, Magdalena Andersson s'est dite prête à faire changer la ligne à 5 mois d'élection où la question s'annonce centrale. Un revirement du premier parti suédois serait historique et ouvrirait la voie à une adhésion suédoise à l'OTAN au moment où la Finlande voisine s'apprête à prendre d'ici l'été sa décision. Comme son voisin finlandais, la Suède n'est pas membre de l'OTAN et est officiellement non alignée militairement, même si elle est partenaire de l'Alliance Atlantique et qu'elle a abandonné sa ligne de neutralité stricte après la fin de la guerre froide. Sa candidature à l'OTAN, impensable politiquement il y a encore 2 mois, est devenue possible, voire probable en ce qui concerne Helsinki. Le soutien à une adhésion a presque doublé après le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine, bondissant à près de 50% en Suède et 60% en Finlande. La part des avis défavorables a, elle, baissé autour de 20 à 30%. La question s'annonce comme un des grands thèmes de la campagne pour les prochaines élections législatives en Suède le 11 septembre. Le conservateur Ulf Kristersson, à la tête de l'opposition de droite, a annoncé son intention de déposer une candidature d'adhésion s'il obtient une majorité au Parlement. Et l'extrême droite des démocrates de Suède, SD, troisième parti des élections de 2018, s'est-elle aussi ouverte à l'idée d'une adhésion après y avoir été opposée? Une réunion interne de la direction de SD a été convoquée ce 11 avril sur la question. Fin février, la diplomatie russe avait émis une mise en garde claire à la Suède et à la Finlande quant à une éventuelle adhésion à l'alliance militaire atlantique. La porte-parole de la diplomatie russe avait ainsi expliqué « Tous les pays membres de l'ESCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, dans leur qualité nationale, y compris la Finlande et la Suède, ont confirmé le principe selon lequel la sécurité d'un État ne doit pas dépendre de celle des autres pays. Il est clair que l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, qui est tout d'abord, comme vous le comprenez bien, un bloc militaire, aurait de graves répercussions politico-militaires auxquelles notre pays serait obligé de répondre. » Six avions de transport militaire de l'armée de l'air de l'appel ont atterri vendredi soir à Belgrade, apparaissant dans l'espace aérien européen depuis la Turquie. Le site de suivi du trafic aérien du vendredi soir, Aviation, a rapporté que des avions de transport militaire Y-20 de l'armée de l'air de l'armée populaire de libération ont été aperçus dans l'espace aérien turc. Il s'est avéré plus tard qu'ils se dirigeaient vers la Serbie où ils ont atterri à l'aéroport Nikola Tesla de Belgrade. Selon des informations, un total de 6 cargos chinois de transport sont arrivés en Serbie, d'abord 4 puis 2 autres. L'apparition de 6 avions de transport militaire chinois au-dessus de l'Europe a immédiatement provoqué, sinon la panique, du moins la vigilance, car personne ne comprenait pourquoi et vers où ils se dirigeaient, et ce notamment dans le contexte de l'opération militaire russe menée en Ukraine. Et la question la plus importante était de savoir ce que transportaient exactement les avions de l'APL. Toutes sortes de propositions ont été faites jusqu'au fait que Pékin transfère des troupes chinoises en Serbie pour protéger les gisements de lithium, et même des troupes russes pour frapper l'Europe de l'intérieur de l'Europe. En fait, l'aviation de transport militaire de l'APL a livré à la Serbie le système de missiles antiaériens FK-2020 acheté en 3, qui est une version d'exportation du système chinois de défense aérienne à moyenne portée de la dernière génération HQ-22. Le complexe a été présenté pour la première fois lors d'une exposition à Zhuhai en 2016. Le système de défense aérienne HQ-22 remplace les systèmes de défense aérienne obsolète HQ-2 de l'APL. Au total, les Serbes ont acheté 3 batteries FK-3. La Serbie serait devenue le premier acheteur connu du système chinois de défense aérienne FK-3. Contrairement au système de base HQ-22, qui a un rayon de dommage allant jusqu'à 150-170 km et une hauteur de dommage de 50 mètres à 27 km, la version d'exportation du FK-3 a une zone de destruction allant jusqu'à 100 km de portée. Les paramètres d'altitude des dommages sont les mêmes. Le président serbe confirme la volonté de Belgrade d'acquérir 12 avions Rafale. La semaine passée, il a été rapporté que la Serbie négocie l'achat de 6 à 12 avions Rafale auprès de Dassault Aviation. Ce qui n'avait rien de surprenant dans la mesure où, quelques mois plus tôt, l'état-major de la force aérienne serbe avait recommandé l'achat du chasseur multirôle français. Et selon la tribune, une offre aurait même été remise à Belgrade début mars. C'est ce qu'on apprend sur OPEX 360. Et le site français continue comme suit. Le 9 avril, et alors qu'il venait d'assister à des manœuvres militaires, le président serbe Aleksandar Vučić a confirmé l'intention de Belgrade de se procurer au moins 12 rafales. Nous négocions l'achat de 12 rafales neufs depuis un an maintenant, a en effet affirmé M. Vučić selon le journal Politica. Et d'ajouter, nous négocions aussi avec un autre pays pour l'achat de 12 autres rafales d'occasion. Cette dernière annonce a de quoi surprendre étant donné que l'on voit quelle autre force aérienne pourrait céder ces rafales. Cependant, ce 11 avril, le président serbe a clarifié son propos dans un entretien donné à l'agence Reuters. Nous envisageons d'acheter 12 autres avions d'occasion occidentaux d'un autre pays, a-t-il dit, sans livrer plus de détails. Quoi qu'il en soit, s'agissant de rafales, M. Vučić a confié que le rachat était dans l'intérêt de la Serbie. Nous cherchons la meilleure façon de leur payer sans mettre en péril nos finances publiques, a-t-il confié à Reuters. Jusqu'à un passé récent, la Serbie comptait sur la Russie pour équiper en partie ses forces armées, mais c'est de moins en moins vrai, écrit OPEX 360 dans une tentative de semer la division. Ainsi, ces dernières années, elle a commandé des drones CH-92A et des systèmes de défense aérienne FK-3 auprès de la Chine, ainsi que 9 hélicoptères H-145M produits par Airbus Helicopters. Nous n'avons pas de préjugés idéologiques. En ce qui concerne l'achat d'armes, avait ainsi assuré Nenad Miloradovic, vice-ministre serbe de la Défense en 2018. En outre, candidate à l'adhésion à l'Union européenne, la Serbie semble prendre ses distances avec la Russie, comme en témoigne son vote en faveur d'une résolution des Nations Unies demandant à Moscou de retirer immédiatement ses troupes d'Ukraine le 2 mars dernier. Le texte ne mentionne aucune sanction, mais il est certainement essentiel de notre part de condamner l'effondrement de l'intégrité territoriale de tout État membre de l'ONU, avait alors justifié M. Vučić. Cela étant, l'opinion publique serbe n'est pas forcément sur cette ligne. Par ailleurs, le président serbe a également indiqué le 9 avril que l'achat de drones tactiques Bayraktar TB2 auprès de la Turquie était également envisagé. Il y a deux jours, lors d'une rencontre avec le président turc Erdogan, j'ai dit que nous voulions acheter des Bayraktar TB2. Il m'a promis que nous pourrions les obtenir, a-t-il relaté. Ramzan Kadyrov, le président de la Tchétchénie, nous libérerons d'abord le Donbass, puis prendrons Kiev. Une offensive des forces russes était à prévoir non seulement sur le port assiégé de Mariupol, mais aussi sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes, a affirmé ce lundi matin le président de la Tchétchénie, entité de la Fédération de Russie. Il y aura une offensive non seulement sur Mariupol, mais aussi sur d'autres lieux, villes et villages, a annoncé Ramzan Kadyrov. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne Telegram. Lugansk et Donetsk dans le Donbass, nous les libérerons complètement en premier lieu et ensuite nous prendrons Kiev et toutes les autres villes, a averti Ramzan Kadyrov. Je vous assure, on ne lâchera pas pied, a-t-il martelé. Jeudi dernier, un porte-parole des forces de la République populaire de Donetsk a annoncé la fin des principaux combats dans le centre de la ville de Mariupol, ajoutant que les combats se sont déplacés vers le port de la ville. Entre-temps, l'armée ukrainienne a dit lundi se préparer à une ultime bataille dans le port de Mariupol, dans le sud-est du pays, assiégé par l'armée russe depuis plus de 40 jours. Aujourd'hui sera probablement l'ultime bataille, car nos munitions s'épuisent. Ce sera la mort pour certains d'entre nous et la captivité pour les autres, a écrit sur Facebook la 36e brigade de la marine nationale qui fait partie des forces armées ukrainiennes. Pour rappel, la Russie a lancé le 24 février dernier son opération militaire en Ukraine. Celle-ci vise, selon le président russe Vladimir Poutine, à démilitariser et à dénazifier l'Ukraine, ainsi qu'à secourir les républiques populaires autoproclamées du Donbass et reconnues par Moscou, dont les populations seraient menacées de génocide. Elle est dénoncée comme une guerre d'invasion par les Occidentaux qui ont multiplié les sanctions contre des entités et personnes russes ces dernières semaines.